Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Je suis ravi de vous retrouver pour un sujet brûlant, le permis de construire en ligne. Quelle bonne pratique pour une expérience réussie. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est vrai qu'il y a déjà eu des podcasts, des émissions sur la DMAT ADS. N'hésitez pas à les consulter sur Radio Territoria. En tout cas, aujourd'hui, on va se poser la question, quelles sont les clés de réussite de la DMAT? Quelles étapes pour structurer la démarche? Ou encore, comment gérer les dossiers papier? Pour nous y répondre, nos experts sont avec nous en plateau. Bonjour Jean-Michel Coste.
Bonjour Fabrice.
Jean-Michel, vous êtes le directeur du programme de la dématérialisation de l'application du droit des sols, le programme DMAT ADS, ou permis de construire en ligne, au sein de la direction en charge de l'urbanisme des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Bienvenue à vous, et comme vous êtes notre expert du jour, un gros morceau pour vous aujourd'hui. On est en compagnie de celle sans qui l'émission ne serait pas tout à fait pareille, Hélène Parmentier, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Hélène, vous êtes chargée de la mission mobilisation des territoires, également à la DGLN au sein du ministère. Et comme à chaque nouvelle édition, vous allez tout à l'heure recueillir les questions de nos auditeurs, puisqu'on vous rappelle que cette édition est en direct. N'hésitez pas à poser vos questions dès à présent, surtout que vous êtes nombreux à utiliser le système. Et je sais qu'il y aura sûrement de nombreuses questions, on les prendra en fin d'édition. Et puis on aura aussi un témoignage tout à l'heure de quelqu'un qui utilise déjà les services des MATADS, ADO en particulier, il nous en parlera. Alors Jean-Michel, merci de votre participation à cette 23e émission déjà dédiée au programme DMAT ADS, une émission qui se veut consacrée aux clés de la réussite de la dématérialisation. On en a déjà parlé. Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes doivent être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d'autorisation d'urbanisme. C'est le fameux principe de la saisine par voie électronique. Les communes de plus de 3500 habitants sont soumises à une seconde obligation. Elles doivent également assurer l'instruction des demandes sous forme dématérialisée, comme le prévoit la loi Élan. Alors ça fait déjà un an et demi que ces deux obligations sont entrées en vigueur. Et vous pouvez témoigner à présent de nombreux retours d'expérience de collectivités plus ou moins grandes, de nombreuses réussites. Vous avez voulu les partager à ce micro. Aujourd'hui, on va y revenir tout au long de l'émission. Mais pour commencer, comme à chaque fois, quelques mots sur l'actualité du programme, Jean-Michel.
Merci Fabrice. Alors parmi les actualités récentes du programme, je suis fier d'annoncer qu'aujourd'hui, on vient de dépasser une étape emblématique puisqu'on a franchi le cap des 1 million de dossiers qui ont circulé via Plateau. Donc la plateforme d'échange et de partage des autorisations d'urbanisme.
1 million, hein, c'est énorme.
C'est un chiffre important. Après, il faut être conscient qu'il y a 1,5 million de demandes qui sont déposées par an. Donc ça veut dire qu'en gros, hein, on a 50% de la volumétrie attendue. Donc on voit que l'écosystème monte en puissance. Alors pour rappel, hein, Plateau, il est opérationnel depuis maintenant 2 ans. On avait anticipé la fameuse date réglementaire du 1er janvier 2022 de 6 mois. Évidemment, ça permet une instruction simultanée entre des acteurs aussi variés que une commune, un service consulté de l'État ou un gestionnaire de réseau, ou encore de transmettre une autorisation au contrôle de légalité. Alors, on est fiers hein, de ce résultat. Cependant, on va dire le triomphe modeste, hein, évidemment. Puisque l'opérabilité des outils de l'État a été démontrée, même si on a actuellement des problèmes pour récupérer certains fichiers qui se trouvent sur Plateau. Donc je le dis en direct, hein, à l'antenne. Donc le problème est bien identifié, donc il devrait être résolu en début de semaine prochaine. Donc c'est plutôt rassurant, mais voilà.
Bug est en cours de...
Voilà, a été identifié, maintenant il faut le corriger. Donc c'est évidemment, hein, tout système d'information dans sa vie rencontre des difficultés. Celui-ci n'échappe pas à la règle. En plus, on connaît la volumétrie hein, des actes, on a dit 1 million. Et je rappelle aussi qu'il y a 15 000 communes qui sont raccordées et qui échangent des flux sur Plateau. Donc on voit que quand même les acteurs sont très très nombreux maintenant.
Donc message à tous ceux qui nous écoutent et qui sont un petit peu frustrés en ce moment, effectivement il y a bien des petits couacs, c'est normal hein, vu la volumétrie et vu tout ce qui passe, ça arrive, c'est en cours de résolution, donc merci de prendre un petit peu patience.
Absolument. Alors bon, dans les mois à venir, on va continuer évidemment à travailler sur différents chantiers. Déjà l'animation de la gouvernance interministérielle, hein, en lien étroit avec le ministère de la Culture, la Direction Générale des Collectivités Locales et le ministère de l'Intérieur. L'objectif reste le même, c'est arriver à une mise en place d'une instruction dématérialisée dite de bout en bout. Et évidemment, les services de l'État, dans chaque territoire, ont un devoir d'exemplarité vis-à-vis des collectivités, puisque l'État est venu imposer, entre guillemets, cette dématérialisation aux collectivités. Évidemment, il faut que les services de l'État aussi suivent et acceptent les dossiers de, par voie dématérialisée. Alors voilà, sur un plan aussi plus technique, évidemment, Plateau continue à évoluer. Ça, c'est normal, hein, ça fait partie aussi de la vie des systèmes d'information. Et enfin, on va continuer à poursuivre les actions d'accompagnement pour le déploiement auprès des acteurs terrain, et notamment nos directions départementales des territoires de la mer, qui sont vraiment la cheville ouvrière du déploiement sur les territoires. Évidemment aussi vis-à-vis des communes, où on essaye d'organiser un maximum d'événements pour favoriser la transversabilité. Et enfin, les gestionnaires de réseaux privés, publics, qui sont assez nombreux à cette branchée, à cette raccorde à Plateau. Et juste un dernier point, évidemment, n'oublie pas les usagers, puisque c'est pour eux quand même qu'on propose aussi ce permis dématérialisé.
Alors Jean-Michel, donnez-nous quelques chiffres hein, pour finir sur l'actualité du programme, c'est toujours plus parlant.
Alors déjà, j'ai déjà dit, il y a 1 million de dossiers qui ont circulé sur Plateau, donc ça c'est intéressant. Donc on a effectivement 16 000 communes qui sont en production, c'est-à-dire qu'elles ont raccordé leur outil quotidien et elles sont en capacité en fait d'instruire de manière dématérialisée, donc en ligne, donc ça c'est intéressant, par rapport aux services consultés. Donc ça c'est des services qui sont sollicités lors de l'instruction d'un permis de construire. On a quand même 1800 services qui sont enrôlés et on a quand même 350 000 consultations qui sont déjà réalisées sur Plateau. Donc là aussi, c'est un chiffre quand même qui est assez important, qui cache une grande diversité d'acteurs. On a des services déconcentrés, on a aussi des grands acteurs privés comme Enedis, Veolia, GRTGaz et RTE. Donc c'est un signe très fort, ça prouve qu'il y a vraiment un intérêt à se connecter à Plateau pour instruire de manière dématérialisée.
Voilà, merci Jean-Michel pour ces chiffres. On en vient maintenant au cœur du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Une première question, alors très simple mais très large. Quelles sont les clés, pour ceux qui nous écoutent, les clés de la réussite de la DMAT? Autrement dit, que faut-il retenir de ces retours d'expérience que vous avez, qui sont plutôt réussis, de collectivités, pour qui ça fonctionne?
Alors, vous l'avez rappelé en début d'émission, ça fait 18 mois donc, que l'échéance réglementaire est passée. On a maintenant un meilleur recul hein, pour juger et capitaliser sur les retours d'expérience. Elles sont nombreuses. Alors déjà, la première clé de réussite pour engager cette transformation numérique, largement partagée par les collectivités, c'est s'organiser en mode projet. Alors, c'est-à-dire que la DMAT est un projet à part entière et il faut s'organiser en conséquence. Donc, il y a de nombreuses collectivités, elles ont nommé en fait un chef de projet qui va être capable de séquencer les différentes étapes et animer la démarche au sein de leur administration. C'est effectivement complexe à mettre en œuvre. Alors parfois, ces chefs de projet, ce sont des agents instructeurs qui se sont portés volontaires, donc c'est intéressant parce qu'ils connaissent très bien le métier, donc ils sont légitimes hein, pour porter cette transformation. Quelquefois, les collectivités, elles ont créé des nouveaux postes. C'est le cas, par exemple, pour l'agglomération de Vannes, hein, avec la création d'un poste d'administrateur fonctionnel en charge de l'administration des outils, de la maintenance, mais aussi chargé de l'animation des relations par rapport aux partenaires du territoire. Donc, c'est vrai que c'est un investissement, mais ça apporte de vrais bénéfices en termes de qualité de service, qualité aussi des outils à disposition et la fluidité des échanges avec les acteurs du territoire.
Qu'est-ce que cela implique d'autre, justement, ce mode projet?
Alors, ce mode projet, ça veut dire surtout d'anticiper les impacts de la dématérialisation et d'essayer d'embarquer un maximum de sujets au-delà de la dimension purement outil ou système d'information qui est très réductrice. Parce que, effectivement, c'est l'utilisation d'un nouvel outil, mais c'est surtout en fait l'humain qui est derrière.
Bah oui, il faut embarquer les équipes.
Exactement. Donc là-dessus, évidemment, il y a d'abord un sujet relation humaine. Hein, évidemment, il faut accompagner l'évolution des métiers et des compétences par le biais des formations des agents qui vont utiliser de nouveaux outils. Alors sur ce point, on a Moche Communauté qui s'est qui a été assez exemplaire, hein, puisqu'ils ont en fait, ils sont appuyés sur les agents les plus à l'aise avec l'informatique pour porter la responsabilité de l'administration fonctionnelle, mais aussi pour former les agents aussi. Donc ils ont été des relais en fait, auprès de leurs collègues. Et évidemment, le message passe mieux puisqu'il est en fait clairement contextualisé, c'est-à-dire que c'est expliqué par rapport à des vrais cas métiers. Les fiches de poste aussi, elles ont évolué pour prendre en compte en fait l'évolution des compétences et des missions. Ensuite, il y a un sujet d'organisation interne. Hein. Il faut aussi harmoniser les modes de fonctionnement et accompagner l'appropriation de nouvelles méthodes de travail, ce qui implique évidemment une véritable dynamique hein, entre les agents instructeurs et aussi leurs managers pour qu'ils portent en fait cette dynamique. On a un exemple à Aix-en-Provence hein, où les agents en fait ont porté la conviction en fait que les efforts du début permettrait à moyen terme de réaliser des gains réels en termes d'amélioration du confort de l'instruction, mais aussi de rapidité aussi de l'instruction. Donc c'est important, il faut engager vraiment une dynamique collective hein, pour donner du sens aux agents, pour qu'ils soient porteurs des bénéfices de la démarche. Donc ça, c'est vrai que c'est important, hein, on voit, ça peut pas être une transformation qui vient du haut sans trop expliquer et sans impliquer en fait les agents.
Donc sujet RH, sujet d'organisation interne, quoi d'autre ?
Alors un autre sujet c'est l'animation aussi territoriale puisque effectivement hein, pour que, on l'a déjà dit, hein, la dématérialisation fonctionne, il faut que tout le monde s'y mette. Si un acteur n'y est pas, mais on perd le bénéfice, on est obligé de rematérialiser, ce qui est assez pénible. Alors sur ce point, on a la métropole de Bordeaux qui s'est vraiment positionnée en chef de file hein, pour accompagner en fait les services consultés du territoire, faire preuve de pédagogie sur les bénéfices de la dématérialisation et avec aussi des partages en fait de modes de fonctionnement et un objectif partagé pour éviter la rematérialisation des dossiers. Comme je l'ai évoqué, c'est extrêmement pénible. Alors voilà, pour terminer en fait, hein, ce qui est important, c'est bien l'analyse des impacts qui est importante puisque elle va permettre de définir une feuille de route avec des questions comme quels sont les acteurs impactés, quels sont les modes de fonctionnement à faire évoluer, est-ce que cela nécessite de nouveaux outils, est-ce qu'il y a des nouveaux modes de management à mettre en place. Voilà, il y a pas mal de questions en fait qui doivent être posées pour réussir cette transformation.
Alors justement, on a bien compris hein, les différents sujets à mettre en œuvre. Dans cette étape de construction et d'animation de la démarche en mode projet, est-ce qu'il y a des acteurs incontournables à associer, et ce, dès le démarrage ?
Alors oui, c'est important et les témoignages sont assez unanimes sur ce point. Il faut embarquer en fait sa direction des systèmes d'information, puisque c'est un élément clé pour aligner les contraintes techniques des outils et les contraintes métiers et humaines qui sont en fait dues à l'appropriation de ces nouveaux outils. Évidemment aussi, la relation avec son éditeur est aussi un élément facilitant et sécurisant. Évidemment, un éditeur, il doit comprendre les besoins métiers hein, des instructeurs. Il doit être en capacité aussi de faire évoluer certaines fonctionnalités, ça c'est important. Je vais citer encore la ville d'Aix-en-Provence, qui a mis en place une gouvernance interne, métier, donc DSI, hein, la Direction des Systèmes d'Information, et aussi avec l'éditeur, avec ces trois acteurs, ils font des retours positifs et ils se rencontrent de manière régulière pour évoquer les difficultés, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Alors, un autre acteur incontournable, évidemment, c'est les élus, qui sont vraiment les sponsors importants pour donner aussi du sens au programme, fixer aussi des caps, des objectifs. Hein. Par exemple, augmenter faire en sorte qu'on ait de plus en plus de dossiers déposés par voie électronique, ça c'est aussi important.
Vous avez évoqué tout à l'heure, Jean-Michel, l'importance de l'animation territoriale pour embarquer en effet tous les acteurs de la chaîne d'instruction dans cette démarche, les communes, les services consultés, etc. Mais les usages et les habitudes, vous le savez, ont parfois la peau dure. Tous les services ne sont pas prêts au même moment et même certains sont un peu résistants. Alors comment on peut gérer ces rythmes différents et éviter surtout la rematérialisation des dossiers numériques ?
Alors effectivement, il y a toujours ce risque hein, de rematérialiser des demandes avec des services qui des fois ne sont pas prêts ou pas prêts au même moment. Je l'ai dit plus tôt, donc c'est pénible hein, quand une collectivité a fait l'effort, elle est prête et là on lui dit mais non, Moi, je ne suis pas prêt à recevoir un dossier dématérialisé, il va falloir me transmettre du papier.
Revenez au papier.
Ouais. Voilà, donc ça, évidemment, c'est extrêmement pénible. Évidemment, en premier lieu, l'État et les services déconcentrés de notre ministère, du ministère de la Culture, de la DGCL, du ministère de l'Intérieur, ont vraiment un devoir d'exemplarité. Alors pour cela, on a rédigé une instruction interministérielle qui est en cours de signature pour que chaque préfet soit en capacité d'évaluer la situation de son département et agir en conséquence pour parvenir à une chaîne d'instruction dématérialisée de bout en bout. Alors cette instruction, elle va aussi renforcer le rôle des directions départementales des directions départementales des territoires de la mer en tant que moteur de la démarche puisque, je l'ai déjà dit, c'est vraiment le chef d'orchestre pour que ça fonctionne. J'en profite aussi pour rappeler que l'ensemble des ressources utiles sont disponibles sur la communauté numérique Osmose, qui réunit aujourd'hui quand même 8000 membres, donc c'est beaucoup, des services déconcentrés, des collectivités. Alors pour y accéder, c'est assez simple, on peut aller sur la page web du ministère dédié à la DEMAT, en tapant dématérialisation des autorisations d'urbanisme dans son moteur de recherche. Et il y a un lien d'inscription. Voilà, donc c'est très facile pour s'inscrire. Il y a aussi, en fait, des échanges entre pairs, entre collectivités, où il y a des solutions aussi qui sont apportées collectivement. Je rappelle aussi, il y a aussi des webinaires, quelques webinaires aussi depuis la fin d'année dernière. On a fait quelques webinaires, notamment un qui me semble important, c'est expliquer Plateau en une journée, puisque Plateau, ça paraît un peu abstrait, on se dit mais qu'est-ce que c'est cette plateforme, voilà, en une journée, on comprend un peu comment cela fonctionne.
Ok, pour ceux qui ont raté, tiens, le webinaire, il est disponible en replay ?
Oui, absolument, voilà, ce webinaire est bien en fait disponible en replay, voilà, donc on vous encourage vraiment à aller rejoindre cette communauté numérique Osmose.
Ok, on ajouterait le lien pour ceux qui l'ont raté dans la description du podcast du jour.
Alors, autre point aussi, quand même, on a engagé des visites dites institutionnelles, puisqu'on est allé à la rencontre des acteurs terrain pour partager les bonnes pratiques, prendre en compte aussi leurs difficultés, apporter des réponses sur mesure. Alors, ces visites, elles vont se poursuivre. C'est des moments vraiment importants et pour la direction du programme. Et ça nous permet de prendre en compte aussi des réalités très différentes, évidemment, entre des grandes métropoles, des communes plus petites. Ça permet aussi de mettre en lumière des initiatives exemplaires, on en a parlé juste avant, et on essaye aussi de promouvoir des partages aussi d'expériences. Et d'ailleurs récemment on a organisé un webinaire donc avec l'Association des maires de France, Intercommunalité de France, sur les retours d'expérience qui a réuni en fait plusieurs centaines de communes. Évidemment, il est bien accessible sur Osmose.
Et puis Jean-Michel, l'État a aussi déployé une série d'outils numériques qui sont mis à disposition gratuitement.
Oui, alors tout à fait. Alors on va en parler en fin d'émission. On a d'abord Ado. Ado, alors c'est un système en fait, une application qui est accessible sur servicespublic.fr. C'est une plateforme à destination des usagers qui lui permettent de bien qualifier son dossier suite à des questions. On a aussi Aviso, donc c'est à destination des services consultés qui ne disposent pas de logiciel ou qui rendent peu d'avis. On leur donne de manière gratuite la possibilité de recevoir un dossier dématérialisé, de rendre aussi un avis dématérialisé. Alors évidemment, toutes ces initiatives, elles sont déployées pour un même objectif, c'est parvenir à une chaîne de l'instruction dématérialisée unique de bout en bout. Grâce au fonctionnement en fait et au raccordement avec Plateau. Quelques chiffres, c'est intéressant. On s'est fixé des objectifs, la direction du programme avec ses différents partenaires. Je vais citer trois objectifs stratégiques. Le premier, c'est au 1er septembre 2023 arriver à 50% des demandes déposées nativement par voie numérique, c'est-à-dire déposées sur le portail des collectivités. C'est arriver à avoir 100% des communes concernées par la loi Elan, donc supérieures à 3500 habitants raccordés à Plateau et opérationnels. Et enfin, 100% des services déconcentrés de l'État également raccordés. Donc c'est des objectifs qui sont ambitieux, Mais on, évidemment, ils sont partagés au sein en fait, d'une gouvernance interministérielle.
Un mot à présent sur la relation aux usagers. Comment ces derniers sont-ils informés de l'existence de ce service en ligne? Comment ça se passe pour les usagers qui souhaitent, par exemple, continuer à déposer leur dossier en version papier? Est-ce qu'ils peuvent le faire ou est-ce qu'ils sont obligés de passer par la voie numérique?
Évidemment, l'usager est au cœur du programme, mais ils peuvent tout très bien déposer encore par voie papier. Il n'y a aucune obligation de déposer par voie numérique, je le rappelle. Évidemment, pour l'usager, le dépôt par voie numérique, c'est un gain de temps. Il a la possibilité de déposer son dossier en ligne à tout moment. Donc ça, c'est intéressant. Évidemment, c'est économique et écologique. Puisqu'il y a des économies sur la reprographie des documents en plusieurs exemplaires ou l'affranchissement aussi des courriers recommandés. On a aussi une meilleure traçabilité et une transparence aussi, puisque grâce au dépôt en ligne, on n'a plus cette sensation de saisir l'administration et d'avoir une attente interminable, puisqu'on ne sait pas où se trouve son dossier, donc il y a un effet un peu tunnel. Donc là, il y a une transparence. Et évidemment, aussi, il y a plus de fluidité par rapport aux échanges entre administrations. Par exemple, l'architecte des bâtiments de France, il est saisi beaucoup plus rapidement, il va pouvoir communiquer aussi avec le service instructeur, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Alors, pour informer les usagers, on a mis en place des actions de communication et de sensibilisation au niveau du ministère, mais c'est surtout les communes, évidemment, qui sont à la manœuvre pour faire la publicité de ce dépôt par voie électronique. On peut citer la métropole de Bordeaux, qui a mis en place une campagne d'affichage dans la ville, en fait, pour informer les usagers. Et je rappelle que, d'ailleurs, le principe de la saisine par voie électronique qui s'impose à toutes les communes, sans distinction, il n'y a pas de seuil. Et elles doivent faire évidemment la promotion de ce dispositif via, le premier média, c'est le site internet de la commune, pour que ce canal devienne unique. Donc ça, c'est important. Et enfin, évidemment, un usager peut très bien continuer avec le papier. La DMAT n'est pas une obligation.
D'accord. Les demandes justement qui sont déposées en version papier, elles intègrent un processus papier également?
Alors, justement, en termes de bonne pratique, le sens de la démarche veut que, évidemment, tout soit instruit de manière dématérialisée avec un seul flux. Alors, c'est vrai que pour éviter, en fait, ce double flux et une double chaîne de traitement, papier et dématérialisé d'un côté, certaines communes ont mis en place un processus de numérisation. Alors, ça veut dire que les demandes qui arrivent en version papier, elles sont scannées, numérisées, et elles vont intégrer un circuit dématérialisé. Donc ça, c'est vraiment une bonne pratique, puisqu'on n'a qu'un seul flux. Concernant les services de l'État, qui instruisent encore, en gros, 8% des demandes qui sont déposées par an, on fait appel à un prestataire privé, qui va venir numériser à la chaîne, puisque ce n'est pas très enrichissant pour un instructeur de scanner des pièces. En fait, il prépare son dossier et ensuite il envoie à ce prestataire de numérisation. Alors évidemment, ça représente un coût supplémentaire, mais toutes les collectivités qui l'ont mis en place témoignent d'un bon retour sur investissement et d'un réel bénéfice du traitement avec un seul flux. Alors, on peut citer un exemple, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, qui a mis en place exactement la même procédure que les services de l'État, qui s'appuie sur un prestataire local de numérisation et donc qui a qu'un seul flux à gérer. Alors, évidemment, important, la dématérialisation, ça ne signifie pas de couper le lien avec le pétitionnaire, on peut toujours aussi faire des accueils. Et justement, la dématérialisation, ça va sur le recentrage sur des missions à haute valeur ajoutée, comme justement l'accompagnement et le conseil aux usagers. Et là-dessus, on a aussi un exemple, l'agglomération de Vannes qui propose un service d'accueil mutualisé pour accompagner les usagers, quelle que soit la modalité de dépôt.
Alors justement, tiens, puisque vous venez d'en parler, eh bien on a cet exemple justement de Vannes avec Gaël Gouret, qui est responsable de l'application du droit des sols, qui a choisi d'utiliser ADO et qu'on a évoqué tout à l'heure, la plateforme du dépôt des demandes par les pétitionnaires, mise à disposition donc par l'État sur servicepublic.fr. On va l'écouter tout de suite, justement, son retour d'expérience. Bonjour Gaël Gouret.
Bonjour.
Vous êtes responsable application du droit des sols de l'agglomération de Vannes. Vous avez fait le choix de vous raccorder à ADO, qui est donc devenue la plateforme de dépôt et de transmission en ligne des demandes de permis de construire pour votre collectivité. Première question, Gaël, pourquoi avez-vous fait le choix d'utiliser ADO, la plateforme de dépôt des autorisations d'urbanisme mise à disposition par l'État ?
Alors, effectivement, on a fait le choix de se raccorder à ADO en complément de la plateforme de dépôt qui est proposée par la collectivité. Donc, on l'a fait parce qu'on avait un petit peu de recul déjà sur la dématérialisation. Hein. C'est un projet que DématADS que nous menons déjà depuis près de 5 ans hein, au sein du service. Et donc, depuis 2019, voilà, on a engagé un vaste chantier avec les mairies pour améliorer le service rendu aux usagers et justement simplifier nos procédures d'urbanisme via la DEMAT. Donc c'est tout logiquement en fait qu'on a souhaité se raccorder à ADO dans une logique de cohérence en fait du parcours pour l'usager. Donc en juin 2022, toutes les communes de notre service ADS ont été raccordées à ADO. Hein, ça représente 59 communes. Et on a à peu près un an de recul aujourd'hui sur ADO et environ 300 dossiers qui ont été déposés à ce jour par ce canal.
Comment avez-vous procédé pour raccorder justement votre outil d'instruction à ADO ?
Et ben en fait on a démarré par une phase test hein, avec des mairies pilotes pour vérifier l'impact métier que cela engendrait en fait sur aussi bien côté mairie que côté service instructeur. Voilà, on a eu plusieurs retours aussi de pétitionnaires hein, qui nous ont permis un petit peu d'améliorer aussi nos process. Et on s'est vraiment saisi du sujet. On a intégré du coup le projet ADO à notre projet DEMAT. Donc cette phase test en fait nous a permis de nous rassurer hein, tout simplement avec cette nouvelle fonctionnalité, de faire le lien et de travailler aussi avec l'éditeur logiciel parce qu'il y avait certains dossiers en erreur qu'on n'arrivait pas bien à comprendre pourquoi ils étaient en erreur. Donc il a fallu trouver des solutions techniques. Il y a eu un gros travail de paramétrage qui a été réalisé par notre administrateur fonctionnel hein, en interne au sein de notre service. Pour faire le raccordement effectif et faire en fait un mini guide avec une checklist pour toutes les mairies du territoire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand un dossier est déposé sur ADO, on a paramétré un mail de type qui est adressé au demandeur et dans lequel on l'invite en fait à créer un compte sur notre guichet unique pour pouvoir suivre l'avancement de son dossier en ligne et pouvoir déposer des pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande et déposer aussi en fin de parcours donc la DOC et la DACT.
Enfin, dernière question, Gaël Gouret, quel bénéfice trouvez-vous à l'utilisation d'ADO ?
Je dirais que c'est un bon outil complémentaire hein, au guichet unique qui est proposé par les collectivités. Hein. Donc nous, c'est vrai que ça représente quand même une trentaine de dossiers par mois qui est déposé via ce canal. Il y a quelques manipulations qui sont nécessaires pour les remettre dans le circuit classique d'instruction, mais ça vaut le coup. Et voilà, il permet d'aller chercher des dossiers qui auraient été déposés par voie papier pour la plupart, donc c'est quand même dommage. Donc c'est vraiment dans une idée de cohérence par rapport pour l'usager, pour moderniser aussi le service public, hein, tout simplement, et montrer que entre l'État et les collectivités, ça fonctionne, les plateformes effectivement sont interopérables. Voilà, c'est un bel exemple en fait de réussite et de finalisation de la DEMAT. Je dirais qu'il y a toujours des axes d'amélioration. Hein. Aujourd'hui, on est effectivement certains dossiers déposés sur ADO, sont de qualité perfectible, je dirais. Donc on travaille aussi à améliorer tout cela, mais la DEMAT est un projet au long cours et il reste encore quelques étapes.
Merci Gaël Gouret, je rappelle que vous êtes responsable application du droit des sols de l'agglomération de Vannes. À très bientôt sur Radio Territoria. Voilà, retour au direct pour le, ce témoignage hein, de Gaël Gouret, élogieux en tout cas. Hein. Voilà, ça fait plaisir parce que c'est vrai quand on développe des programmes, souvent on a un peu le, c'est l'office des mécontents, des gens qui vous disent ça marche pas, surtout sur 1 million de demandes. Il y a aussi des gens, heureusement, qui sont très satisfaits et pour qui ça fonctionne, Jean-Michel.
Tout à fait, c'est vrai, c'est intéressant et effectivement, hein, Ado, on en a parlé déjà, hein, oui. C'est vraiment intéressant puisque ça vient guider l'usager qui n'est pas au courant que pour construire, il faut peut-être un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux, s'il fait une extension, etc. Donc c'est vraiment une plus-value pour guider l'usager et éviter aussi les dossiers incomplets. Hein, en fait, hein, c'est important parce que on le sait, hein, en dépôt papier, on avait beaucoup de dossiers incomplets. En démat, malheureusement, c'est pareil, hein, ça ne change pas beaucoup. En revanche, Ado a vraiment cette plus-value, hein, c'est-à-dire que comme il guide l'usager et il lui indique les pièces qu'il doit déposer, les dossiers sont de bien meilleure qualité.
Et voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur cette dématérialisation et ces nouveaux outils. Voilà, le numérique avance et c'est bien, ça permet aussi sûrement à terme, ça permettra de faire des économies et c'est tant mieux. Tout de suite, je vous propose de passer aux questions.
Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions.
Hélène, je me tourne vers vous. Est-ce que le sujet a passionné nos auditeurs ? Est-ce que les questions sont nombreuses ?
Et oui, Fabrice, elles sont nombreuses et c'est logique. Alors, on a une première question d'une collectivité. Jean-Michel, cette collectivité souhaite savoir comment les autres communes ont résolu le problème du stockage des dossiers dématérialisés en ligne, notamment sur la question du poids croissant des fichiers et de la prise en charge.
Alors, avant tout, et d'ailleurs, c'est un peu le mouvement, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment l'application du droit des sols, de plus en plus, c'est une compétence qui est transférée au regroupement de communal, hein, c'est-à-dire que c'est pas chaque commune hein, qui va évidemment s'équiper. Il est important que cette dépense, elle soit déjà au niveau intercommunal. Sur le sujet en fait du stockage, ce que l'on voit, c'est on a eu quelques statistiques. Hein, je peux les partager, ça c'est intéressant. Ce qu'on voit, c'est un permis en général, il pèse 20 mégas. Il pèse 20 mégas et il comporte 20 pièces, donc 1 méga par pièce. On essaye d'insuffler un peu de sobriété numérique hein, pour pousser en fait les usagers à déposer des pièces pas trop lourdes, ça c'est important et je pense que les collectivités peuvent faire un peu de pédagogie hein, aussi hein, pour éviter par exemple le cas assez classique hein, où quelqu'un en fait n'a pas vraiment d'outils, donc du coup il trace un plan sur une feuille de papier, il va le scanner, avec une définition très importante et du coup la pièce va être très très lourde, donc ça c'est des choses qu'on peut éviter, donc avant tout en fait les communes comment elles ont réussi en fait, c'est en fait en réfléchissant justement à leur direction de l'informatique et surtout à un niveau intercommunal, ça c'est important.
Autre question, Hélène.
Oui, une autre question qui concerne plutôt là, les archives dématérialisées des pétitionnaires. Quel accès, pour quelle durée ? Donc, est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions ?
Alors, c'est un sujet assez délicat, hein, qui est lié aussi au stockage. Donc là, on parle plutôt de l'archivage. C'est-à-dire que quand une décision est rendue, normalement, le dossier, il est archivé. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans la base, on va dire, chaude. Il est plutôt mis à côté, hein, pour éviter de surcharger justement la base de données. Donc ça, c'est un point. Alors, on travaille actuellement avec le service interministériel des archives de France pour trouver une solution, encore une fois, mutualisable, puisque Plateau, on l'a vu, fonctionne. On réfléchit à trouver une solution pour, pourquoi pas, proposer, évidemment, ça sera sur la base du volontariat, une solution d'archivage simple pour les collectivités. Alors, c'est un sujet qui est complexe. Je prends toutes les précautions puisque le principe, il est simple. Hein. On est censé archiver de manière intermédiaire une fois que la décision a été rendue pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on est censé conserver. Hein. Et au bout de ces 10 ans, on est censé le donner aux archives pour archivage définitif. Donc d'accord. Ça, c'est le cycle hein, en fait, classique. En numérique, ça ne change pas. Mais évidemment, ce qui est un peu lourd hein, en numérique, c'est que c'est finalement Il faut réfléchir qu'est-ce qu'on doit archiver et aussi l'archivage, je veux dire, d'ailleurs c'est le sens de la question, mise à la disposition du citoyen. C'est-à-dire qu'un citoyen pourrait très bien venir consulter un permis qui a été délivré. Et donc pour ça aussi, on réfléchit à une solution. En tout cas, actuellement, nous, pour nous, les demandes qui sont instruites par les services de l'État, le code des relations entre le public et l'administration le permet, on peut très bien envoyer par un mail. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui demanderait un permis de construire, on peut très bien lui envoyer les pièces par mail en lui disant voilà votre permis, en attendant de mettre en place une application un peu plus confortable pour les services.
D'accord.
Une autre question qui concerne davantage les services de l'État dans nos territoires. Pourra-t-on intégrer directement les documents papier numérisés sans passer par un prestataire ?
Alors c'est important. Pourquoi on passe par un prestataire privé ? Parce que c'est le seul à garantir une copie fiable et fidèle. C'est-à-dire que si vous prenez un document et vous allez le scanner dans le couloir en fait de votre service, ça n'a aucune valeur juridique. Donc c'est pour ça aussi qu'on passe par un prestataire extérieur hein, qui nous garantit en fait cette copie fidèle et fiable, et ça permet aussi de détruire les originaux. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que j'ai fait ce travail, qui va me prendre un peu de temps, mais ça veut dire après je peux détruire les originaux et l'archivage va se faire tout seul. C'est plus une mission que je dois garder en tête. Hein. C'est-à-dire que non, l'archivage va se faire tout seul. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à ces prestataires extérieurs. Alors on a prévu une évolution quand même hein, pour permettre au DDT, mais de manière temporaire, hein, pour certaines pièces, de les rajouter elles-mêmes, pour certains cas métiers. Mais c'est uniquement pour faire des ajouts, hein, pas pour numériser de manière globale un dossier, puisque ça va être pénible, hein, c'est pièce par pièce. Voilà, c'est vraiment pour un cas particulier. Alors, de mémoire, c'est prévu pour la rentrée. C'est une fonctionnalité prévue pour la rentrée.
Pour d'autres questions, notamment, quid des demandes d'autorisation de travaux pour un ERP avec ou sans procédure de permis de construire ?
Alors, effectivement, c'est un sujet plutôt juridique. Avec le ministère de l'Intérieur, on s'est engagé à supprimer l'exception à titre, alors je suis désolé, c'est un peu technique, hein, mais c'est écrit dans un décret. Pour l'instant, les autorisations de travaux pour les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur sont exclus de la saisine par électronique. C'est-à-dire qu'en fait, un service qui les recevrait de manière dématérialisée pourrait dire non, moi je ne veux pas les instruire de manière dématérialisée, je veux du papier. Donc, on va supprimer cette exception pour le 1er janvier 2024. Donc, ça, c'est une première étape hein, d'un point de vue juridique. Après, d'un point de vue purement technique, on réfléchit évidemment à les porter aussi sur plateau, puisque voilà, si les demandes d'autorisation d'urbanisme fonctionnent et qu'il y a des échanges, pourquoi pas supporter de nouvelles démarches et pourquoi pas celle-ci. Alors, c'est en cours de réflexion, hein, je vous donne aucune date. La seule date que je peux donner, c'est qu'on va supprimer cette exception, en fait, à titre définitif, pour les AT, ERP, IGH au 1er janvier 2024.
Alors, on a encore le temps, Fabrice, de prendre encore une question.
Dernière question.
Une question d'un auditeur qui nous partage comment faire face à la fracture numérique de certains pétitionnaires. Est-ce que des dispositifs sont prévus, comme une hotline ?
Alors, il y a sur le service ado, en tout cas, il y a un système de rappel, hein, c'est-à-dire qu'on peut être rappelé. On commence une démarche et on a une difficulté. Il y a une personne qui va rappeler. Mais là, pour ça, il faut passer sur ado. Le papier est toujours possible. Hein, donc, il est toujours possible de faire des demandes papier. Et pas par voie dématérialisée. Alors c'est vrai, hein, comme on l'a dit, il y a certaines communes, et je rappelle la communauté, l'agglomération de Vannes, qui prévoit un accueil, peu importe la modalité de dépôt, qu'il soit papier ou numérique, ils proposent un accueil. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et au final, c'est un gain de temps, puisque le dossier aussi sera mieux renseigné, on va moins avoir d'aller-retour entre le pétitionnaire et le service instructeur, hein, qui sont pénibles. Donc ça vaut la peine, hein, je pense, de prendre un peu de temps pour accompagner justement les usagers.
On est au bout. Bon, on l'avait dit, hein, c'est vrai que c'est un sujet qui passionne. Jean-Michel, en tout cas, bravo déjà, parce que c'est vrai que quand on lance ce genre de gros système, bah, c'est toujours un petit peu périlleux. En tout cas, là, ça a rencontré son public. Alors, on l'a signalé, encore quelques bugs. Hein, on essuie quelques plâtres, évidemment, et ça continuera. Mmh. Mais en tout cas, c'est en train de s'améliorer et on voit que tout le monde est motivé pour s'en emparer. En tout cas, on témoigne l'intérêt des gens sur ces questions. Voilà, le permis de conduire en ligne, quelle bonne pratique pour une expérience réussie. Bah, on espère qu'on vous a donné les clés. En tout cas, un grand merci à Jean-Michel Coste, à Hélène Parmentier. On se retrouve très prochainement, chers amis, pour un nouveau numéro du MAC de l'aménagement, du logement et de la nature. À très bientôt.
Le MAC de l'aménagement, du logement et de la nature, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. À réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.